Eh bien, ça va être le moment de retrouver notre émission Texte et littérature féminine par Jacqueline Engrave. C'est juste après le générique. Voilà, bonjour Jacqueline Engrave, donc présidente de Femmes Solidaires, pour cette suite de textes et littérature féminine et féministe par Jacqueline Engrave. Bonjour.
Bonjour Odile, bonjour Tiffany, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est la deuxième lecture, la lecture du mois d'avril, et nous lisons des morceaux choisis dans les pages du texte peut-être le plus connu de Virginia Woolf, une célèbre romancière et essayiste anglaise, un essai de 1928 intitulé « Une chambre à soi » dans sa traduction initiale de Clara Malraux. La subtilité de son raisonnement, la finesse de son langage, de ses analyses et de ses descriptions de la vie quotidienne sont révélatrices de l'hypersensibilité et du talent de cette romancière, en relation avec un état dépressif chronique qui l'amena à mettre fin à ses jours en 1941, à l'âge de 59 ans. Alors, pour rappel, nous avons fait son portrait à cette antenne le 31 mars 2023, et c'était le 19e portrait de cette saison 2022-2023. Dans cet essai, elle invente une sœur de Shakespeare, le grand dramaturge anglais, pour démontrer qu'au XIXe siècle, les activités artistiques étaient barrées aux femmes, même les plus douées. Donc je commence la lecture. Même au XIXe siècle, on n'encourageait pas les femmes à devenir des artistes. Au contraire, on les humiliait, on les souffletait, les sermonnait et les exhortait. La nécessité où elles se trouvèrent de s'opposer à ceci, de désapprouver cela, a dû tendre leurs nerfs à l'extrême et diminuer leur force vitale. Laissez-moi imaginer, puisque les faits précis sont si difficiles à établir, ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Shakespeare lui-même fréquentait vraisemblablement une école où on lui enseignait le latin, Ovide, Virgile et Horace, et les éléments de la grammaire et de la logique. Nous savons tous que c'était un garçon déchaîné, qui fut contraint d'épouser, plutôt qu'il n'aurait fallu, une femme du voisinage qui lui donna un enfant plus vite qu'elle n'aurait dû. Cette aventure le contraignit à tenter sa chance à Londres. Il avait, semble-t-il, du goût pour le théâtre. Il trouva du travail au théâtre, devint un acteur en vogue et vécut au centre de l'univers, rencontrant tout le monde, pratiquant son art sur les planches, exerçant son esprit. Pendant ce temps, sa sœur, si merveilleusement douée, nous sommes dans le domaine des suppositions, restait à la maison. Elle avait, autant que son frère, le goût de l'aventure, était, comme lui, pleine d'imagination et brûlait du désir de voir le monde tel qu'il était. Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. Elle n'eut pas l'occasion d'étudier la grammaire et la logique, moins encore celle de lire Horace ou Virgile. De temps à autre, elle attrapait un livre, lisait quelques pages. Mais arrivaient alors ses parents qui lui disaient de raccommoder les chaussettes ou de surveiller le ragoût et de ne pas perdre son temps avec des livres et des papiers. Peut-être griffonnait-elle quelques pages en cachette dans le fruitier, mais elle avait bien soin alors de les cacher ou de les mettre au feu. Mais bientôt cependant, avant même qu'elle eût atteint sa 20e année, on la fiança au fils du négociant en laine du voisinage. Elle pleura, criant que le mariage lui faisait horreur, ce pourquoi son père la frappa durement. Comment pouvait-elle lui désobéir ? Comment pouvait-elle briser le cœur de son père ? Mais la puissance du génie de cette fille la poussait à la révolte. Elle fit un paquet de ce qu'elle possédait, se laissa glisser le long d'une corde par une nuit d'été et prit la route de Londres. Elle n'avait pas 17 ans. Elle se tint devant l'entrée des artistes. Elle voulait, disait-elle, jouer. Les hommes se moquaient d'elle. Le directeur, un gros homme aux lèvres pendantes, éclata de rire. « Aucune femme, lui déclara-t-il, ne saurait être actrice. » Pouvait-elle même se mettre en quête d'un dîner dans une taverne ou errer dans les rues à minuit ? Et pourtant, elle était génialement douée pour la fiction. En fin de compte, Nick Green, l'acteur-directeur, la prit en pitié. Elle se trouva enceinte de ce monsieur et, qui peut évaluer l'ardeur et la violence d'un cœur de poète quand ce cœur habite le corps d'une femme, se tua par une nuit d'hiver. Je crois que c'est, à peu de choses près, ainsi que l'histoire se serait déroulée si une femme au temps de Shakespeare avait eu le génie de Shakespeare. Et pourtant, certaines formes de génie ont dû exister parmi les femmes, comme aussi dans les classes ouvrières. Cette sœur de Shakespeare mourut jeune. Hélas, elle n'écrivit jamais le moindre mot. Elle est enterrée là où les omnibus s'arrêtent aujourd'hui. Or, j'ai la conviction que cette poétesse, qui n'a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. Elle vit en vous et en moi et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit, car les grands poètes ne meurent pas, ils sont des présences éternelles. Ils attendent seulement l'occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Car voici ma conviction. Si nous vivons encore un siècle environ, je parle ici de la vie qui est réelle et non pas de ces petites vies séparées que nous vivons en tant qu'individus, et que nous ayons toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous seuls, si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous ne reculons pas devant le fait, car c'est bien là un fait, qu'il n'y a aucun bras auquel nous accrocher et que nous marchons seuls et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité, alors l'occasion se présentera pour la poétesse morte qui était la sœur de Shakespeare de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer. Elle naîtra enfin, mais il ne faut pas, car cela ne saurait être, nous attendre à sa venue sans effort, sans préparation de notre part, sans que nous soyons résolus à lui offrir, à sa nouvelle naissance, la possibilité de vivre et d'écrire. Mais je vous assure qu'elle viendrait si nous travaillions pour elle et que travailler ainsi, même dans la pauvreté et dans l'obscurité, est chose qui vaut la peine. Voilà. C'est la fin de cette lecture.
Merci Jacqueline, et on se retrouve donc le mois prochain pour une prochaine lecture.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir à toutes et à tous.